1643 à 1727, qui a avancé la théorie des particules. Donc il a avancé ce modèle que la lumière, il faut se représenter comme des particules qui bougent dans l'espace. Donc, pour lui, c'était clair, la lumière bouge, a un mouvement. Christian Huygens, 1629 à 1695, a avancé la théorie des ondes. Il a dit qu'il faudrait plutôt considérer la lumière pas comme une suite de particules qui bougent, mais plutôt comme des ondes qui bougent. Et bien sûr, vous savez, c'est un paradoxe. Ça ne peut pas être les deux théories sont opposées, mais suivant comment on considère la lumière, on peut la décrire comme une suite de particules ou comme des ondes. Donc, en réalité, on doit dire, nous ne connaissons pas l'essence, l'être de la lumière. Nous pouvons regarder la lumière de différents points de vue. Une fois, on peut la décrire comme des particules, une fois comme des ondes. Mais ce que c'est vraiment, nous ne savons pas. Mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que la lumière bouge, et très vite. La vitesse de la lumière, vous savez, 300 000 km par seconde. Donc à peu près 7 fois autour de la planète en une seconde. C'est pas mal, n'est-ce pas? Ce qui est donc en accord avec Job 38, par quel chemin se distribue la lumière? Quelques exemples que j'ai tirés du domaine des sciences de la Terre. Point 7, la Terre se trouve dans le vide. Vous voyez, les Chinois autrefois étaient convaincus que la Terre est un carré. Les Égyptiens pensaient que la Terre était un rectangle, ce qui est compréhensible puisque leur pays, dans le territoire habité de l'Égypte, forme un rectangle. Et les Babyloniens étaient convaincus que la Terre est en quelque sorte une navette sur la mer. Et les Hindous ont cru que la Terre est un disque porté par des éléphants qui se tiennent sur une tortue. Mais c'était Copernic, 1553, qui prouve finalement que la Terre se trouve dans le néant de l'univers. Et Sir Isaac Newton, 1642 à 1727, comme j'ai déjà dit, fait la découverte des lois de la gravitation. En quelque sorte, n'est-ce pas, la Terre est par la gravitation pendue au Soleil, mais est pendue donc sur le néant. Lisez Job 26, verset 7, toujours du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Il, Dieu, suspend la Terre sur le néant. C'est absolument correct. Et voilà une vérité qui est liée. Point 8, la Terre est un globe. En Ésaïe 40, verset 22, nous lisons « Lui, donc Dieu, qui est assis au-dessus de la voûte de la Terre. » Le terme « voûte » en hébreu « chouk » veut dire « globe » ou « sphère ». Vous pouvez, par exemple, prendre le dictionnaire hébreu de Davidson. C'est un dictionnaire très, très connu parmi les hébraïsans. Et là, vous trouvez comme traduction « hook sphere » en anglais. Un globe. Donc, lui qui est assis au-dessus de la voûte ou du globe de la Terre. Bien sûr, on a toujours dit que les hommes du Moyen-Âge y croyaient que la Terre est plate. C'est un mensonge. Je ne dis pas que c'est une erreur. C'est un mensonge parce que, vous voyez, à l'époque du siècle des Lumières, on voulait montrer que maintenant, l'homme rationnel, ou rationaliste, est dans la lumière, et l'homme, dans le passé, donc au Moyen-Âge, était dans les ténèbres. Donc ça, les ténèbres du Moyen-Âge, c'est une invention des rationalistes du siècle des Lumières. Et aujourd'hui, parmi les historiens, c'est un fait connu que des savants au Moyen-Âge savaient déjà que la Terre est un globe. C'était connu. Mais on peut quand même dire que Christophe Colomb a essayé de prouver par un essai scientifique que la forme sphérique de la Terre est un fait. Et cela par un voyage autour du monde. Et voilà, finalement, le premier tour du monde a été fait par Fernand Magellan, 1480 à 1521. Et, n'est-ce pas, si on part dans une direction et on revient de l'autre, c'est assez clair que la Terre doit être un globe. Alors, ça confirme ce que la Bible a toujours dit. Neuvième point, le poids de l'air. N'est-ce pas, jusqu'au XVIIe siècle, on a cru que l'air, c'est rien du tout. C'est rien du tout. L'air, c'est un autre mot pour dire rien. Mais c'était Evangelista Torricelli. 1608 à 1647, un mathématicien et physicien qui a fait l'invention du baromètre. Et par donc ces mesures par le baromètre, il a pu prouver que l'air possède effectivement un poids. Et même les couches de l'air au-dessus de nous, un poids énorme en plus. Lisez Job 28, verset 25. Dans le contexte, il s'agit de la création. Et les questions de Dieu qui a créé le monde. Et là, vous lisez, quand il fixait au vent sa pesanteur. Donc, une chose qui était toujours en opposition avec la connaissance scientifique. En quelque sorte, jusqu'au XVIIe siècle. C'est la vérité. Dixième point, le cycle de l'eau. Le roi sage, le roi Salomon, a écrit à l'XIe siècle avant Jésus-Christ le livre appelé l'Ecclésiaste. Et là, au chapitre 1, verset 7, il dit « Toutes les rivières vont vers la mer, mais la mer n'est pas remplie. » Vraiment, c'est curieux, n'est-ce pas ? « Au lieu où les rivières allaient, là, elles vont de nouveau. » C'était seulement Pierre Perrault et Ed Mariotte, au XVIIe siècle, qui ont fait la découverte du cycle d'eau, du cycle de l'eau. Ils ont réalisé donc que les rivières apportent l'eau aux mers, mais là, il y a une évaporation qui apporte finalement de nouveau les mêmes eaux comme dans des nuages pour apporter la pluie. Et cette pluie entre de nouveau dans les rivières et ces rivières vont de nouveau à la mer. Donc il y a un cycle d'eau. Un cycle de l'eau. C'était d'ailleurs Edmund Halley, 1656 à 1742, qui a donné la preuve qu'il y a un équilibre entre la pluie et l'évaporation. C'est d'ailleurs aussi fantastique. Il y a un équilibre entre les deux. Vous voyez donc, les fleuves apportent aux océans l'eau. Et là, il y a chaque jour une énorme évaporation. Et plus tard, les nuées reviennent sur la terre. Voilà la pluie. Et l'eau va de nouveau dans les rivières et les rivières dans les océans. D'ailleurs, dans le psaume 135, verset 7, nous lisons de Dieu, lui qui fait monter les vapeurs du bout de la terre. Donc là, vous avez le phénomène de l'évaporation. Job 36, 27, car il attire les gouttes d'eau, des vapeurs qu'il forme, elle distille la pluie. Que les nuages font couler, ils tombent en gouttes sur les hommes abondamment. Là, vous avez donc une description de tout ce cycle. En Ecclésiaste 11, verset 3, le roi Salomon écrit encore, « Si les nuées sont pleines, elles verseront la pluie sur la terre. » Point 11, le cycle du vent. Salomon parle aussi, au chapitre 1, verset 6 de l'Ecclésiaste, du vent. Le vent va vers le midi et il tourne vers le nord. Il tourne et retourne. Et le vent revient sur ses circuits. De nouveau, George Hadley a fait la découverte du système des cycles des vents entre l'équateur et le 30e degré de latitude. Cela d'ailleurs sur l'hémisphère du nord et la même chose sur l'hémisphère du sud. Donc il y a tout un système de vent. Vous voyez, le vent descend, va vers le sud et vers l'équateur et monte de nouveau pour, dans la hauteur, retourner vers le nord et l'opposé sur l'autre hémisphère. Alors c'est exactement comme Salomon le décrit. Le vent va vers le midi, il tourne vers le nord, il tourne et retourne, et le vent revient sur ses circuits. Mais seulement entre le nord et le sud, il n'y a pas ce circuit de l'est à l'ouest. Mais Salomon parle seulement de midi et du nord, du midi et du nord. C'est absolument correct. Douzième point. Les courants marins. Ici, vous avez un exemple intéressant parce que Murray Matthew Fontaine, 1806 à 1873, a fait sa découverte sur la base d'Ésaïe 43, verset 16, qui parle justement de chemins dans les mers. Ainsi dit l'Éternel qui donne un chemin dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes.